Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est de savoir si on a peur quand on va au feu ou quand on fait une intervention. Et je pense que le bon sens veut qu'on continue à avoir peur, même si on est sûr de sa doctrine opérationnelle, même si on est sûr de sa procédure, même si on sait qu'on connaît son matériel. Je pense que avoir peur est un signe de bonne intelligence, parce que la peur nous permet de rester attentif, de rester vigilant. Et en ce qui me concerne, je sais que j'ai peur à chaque intervention. Alors je suis pas pétrifié, je suis pas dans une psychose de ce qui risque de m'arriver, mais je sais que ça me tient en éveil et que c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de rester attentif et d'avoir, je pense, soit les bons réflexes, soit les bonnes attitudes face aux situations opérationnelles que j'ai eu à traiter. Ben, on est en 2004, au mois de juillet, et le 28 juillet, en fait, a démarré aux alentours de midi, à proximité de Nîmes, un feu de forêt sur une journée qui était particulièrement à risque, où on avait une sécheresse déjà bien établie et un fort mistral qui dépassait les 70-80 km/h. En fait, moi je suis dans mon service, je travaille à la direction départementale en qualité d'officier de sapeur-pompier et je suis entre mon bureau et le centre opérationnel où arrivent les demandes de renfort des départements voisins. Et dès le début du sinistre, nos collègues du Gard ont demandé des renforts extérieurs puisque la virulence du feu et surtout sa vitesse de déplacement, sa propagation était inhabituelle, très élevée et ils sentaient bien que la ville de Nîmes allait très rapidement être impactée. La ville de Nîmes, l'autoroute aussi, un certain nombre d'installations. Et par conséquent, puisque c'est la doctrine sur les feux naissants, l'État organise le renfort en envoyant donc des colonnes de renfort depuis les départements voisins. Et c'est là où j'étais sur la liste de garde de mémoire ce jour-là. Et donc je suis déclenché pour prendre le départ sur cette colonne. Mais là, le groupe qui est en place est constitué de 18 personnels, donc 4 camions d'attaque feu de forêt, un véhicule de commandement. Et immédiatement, nous sommes engagés sur le front de feu qui est déjà très virulent, qui a déjà brûlé des maisons et qui pose énormément de problèmes puisque l'autoroute a été fermée, des stations-service ont été évacuées, des maisons, des quartiers, des hameaux sont préventivement évacués. Et la crainte du responsable du sinistre, c'est que le feu, ni plus ni moins, arrive dans Nîmes. Donc en conséquence, on est engagé sur la frange autoroutière avec pour mission de faire en sorte que le feu ne saute pas l'autoroute et reste bien dans le secteur géographique où il se trouvait initialement. Donc on travaille une bonne partie de l'après-midi avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques de sécurité, puisque un feu qui est très virulent, avec énormément de tourbillons de fumée, des sautes de feu importantes, donc des pièges, autant de pièges dans un secteur qu'on ne connaît pas. Et au final, un officier supérieur nous demande d'avoir une action particulière pour défendre l'école de police qui se trouve à l'entrée de Nîmes. Et donc avec le groupe que je commande, on se positionne à l'entrée de Nîmes dans un petit vallon qui est relativement protégé. On est sur une piste de défense de la forêt contre l'incendie, à proximité immédiate d'une citerne qui est remplie d'eau, dans une végétation assez basse et relativement protégée du vent. Donc a priori, une phase où le feu devrait plutôt ralentir, être moins difficile à traiter et sachant que le feu serait là dans 30 ou 40 minutes plus tard, je prends l'initiative de dire à mon personnel de se reposer pour se reconditionner, c'est-à-dire boire, se rafraîchir et essayer de manger un morceau, puisque le repas de midi commence déjà à être loin et que les actions ont été importantes tout au long de l'après-midi. Donc les personnels sont au sol, il n'y a aucun matériel au sol, il n'y a pas de lance de tirer, de tuyaux établis. On est en polo, on essaye de faire descendre la température du corps pour profiter de ce moment de repos, de se mettre à l'ombre, sauf que à ce moment-là, on est surpris par un phénomène thermique qui est assez rare et que pour ma part, je vis pour la première fois ce jour-là. C'est une inflammation spontanée de tout le massif qui nous entoure. Tout le vallon, finalement, a littéralement explosé et en quelques secondes, on s'est complètement retrouvé non seulement dans le noir, dans la fumée, mais aussi avec une espèce de boule de feu qui nous a littéralement submergés et qui ne nous a pas laissé le temps de réagir, puisqu'on appelle ça un embrasement généralisé éclair. Et si vous avez la malchance d'être au milieu, ben quasiment, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous en sortir. Et en fait, on est surpris en quelques secondes par un mur de flammes et de fumée qui est excessivement chaud, qui nous empêche de respirer, qui nous met dans le noir. On n'entend plus rien. Il n'y a plus aucun son audible autour de nous. Et le phénomène dure quelques secondes. Mais ces quelques secondes sont suffisantes pour que tout ce qui est en plastique sur les camions commence à fondre ou à brûler. Les pneumatiques des camions se mettent à brûler aussi. Et on se retrouve en fait dans une situation de détresse ultime, puisque on a quelques secondes pour réagir, remonter dans les camions et se mettre à l'abri. Puisque ça va excessivement vite. Et en fait, à ce moment-là, on essaye de rechercher tout ce qu'on a pu apprendre et tout ce qu'on a pu expérimenter au cours des années en éteignant des feux. Mais quelques secondes pour remonter dans un camion, quand on panique, quand on n'est pas équipé, c'est parfois trop court. Au moment de l'embrasement, moi, j'ai pu assister à un phénomène de panique chez un de mes personnels. C'est un jeune sapeur-pompier qui vivait là une de ses premières expériences. Et qui, contrairement aux doctrines habituelles, au lieu de se diriger vers le camion qui aurait été son espace de survie, a malheureusement pris la décision de fuir devant le feu et donc d'aller à contrario de toutes nos procédures de secours et de sécurité. C'est-à-dire qu'au lieu de réintégrer son engin, en fait, il courait devant le feu. Le problème, c'est que le feu va plus vite que lui. Et avec les fumées, il n'aurait eu aucune chance de s'en sortir. Heureusement, on a réussi à le récupérer très rapidement et à le faire remonter dans un véhicule. Le moment où on réintègre les camions pour fuir, puisque c'est, nous on appelle ça un repli stratégique, la question moi qui me taraude dans ma voiture, c'est: est-ce que j'ai tous mes personnels? Est-ce que tout le monde a réintégré le camion qui est pour nous l'espace de survie? Et est-ce que tout le monde est là? Ce jour-là, on a eu de la chance, on n'a perdu personne. Tout le monde s'en est sorti avec une sacrée frayeur, y compris moi, hein, parce que même avec l'expérience, on se rend compte qu'on peut être confronté à des situations inhabituelles et parfois un peu tordues. Mais là, on a pu tous finir la soirée ensemble, continuer le boulot, et jusqu'au lendemain matin, on est resté sur le chantier à aider nos collègues du Gard. C'est la première fois dans ma carrière où, en situation opérationnelle, je me suis posé la question de savoir si j'avais eu raison d'engager mes agents là où on se trouvait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais posé cette question. Je ne me suis jamais dit: est-ce que j'aurais dû prendre une autre option? Est-ce que j'aurais dû les faire passer ailleurs? Est-ce que j'aurais dû? Là, pour moi, c'était évident. On était où il fallait. Mais quand ça nous est arrivé, là, je me suis dit: mais est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur ou pas? J'ai pris sur moi d'aller voir chacun de mes personnels au fur et à mesure de la nuit, en fonction du rôle de surveillance qu'on avait, pour discuter avec eux, pour voir ceux qui avaient plus ou moins bien ressenti l'affaire, ceux qui se sentaient dépassés, ceux qui trouvaient qu'on avait bien réagi ou qu'il y avait un problème de formation, de matériel. Ça permet aussi d'exorciser un peu le phénomène, de le mettre en parole, d'en discuter avec d'autres, de montrer aux autres que ben, on a beau être chef, capitaine, ou eh ben, on a les mêmes peurs. On peut avoir aussi le même sentiment d'impuissance qu'eux, mais tout en leur disant: ben voilà, on est ensemble, on l'a fait, on s'en est sorti, même si on n'a pas éteint le feu qui nous a passé. À ce moment-là, ça n'a pas été la chose la plus importante, et en leur disant: là, on a gagné. Donc moi, au constat suite à ce phénomène, je me suis posé beaucoup de questions, puisque même si j'étais content que personne ne soit blessé ni atteint dans ses chairs, ça m'a laissé beaucoup de cicatrices au moral et à ma connaissance du métier, parce que je suis notamment formateur en feu de forêt, quel que soit le niveau de commandement, et il est très difficile en formation de faire comprendre à nos personnels, surtout quand ils sont jeunes, quelle peut être la puissance et la dynamique d'un feu de forêt. Selon la végétation, selon la nature de la topographie, de la météo. Et même nous, on est surpris parfois, avec de l'expérience, par des phénomènes d'inflammation dans des zones où on croit savoir que le feu va faire 1500 m/h, 2000 m/h en fonction des conditions météo, et de se retrouver, comme à Vitrolles cet été, avec des sautes de feu à plus de 3000, 4000 m/h qui n'étaient pas du tout attendues au départ pour la journée. Ces conditions de formation sont un peu particulières. Si on est capable de mettre le feu dans un appartement, dans un bateau ou sur une voiture, c'est impossible dans la forêt. Donc à part faire des simulations vidéo ou avec des simulateurs de jeu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire. Et en fait, on ne sait pas comment nos gens vont réagir. On se rend compte que même si 13 ou 14 sapeurs sont bien remontés dans les camions, il y en a 3 ou 4 pour une raison qu'on ignore et qu'eux-mêmes n'expliquent pas après coup. Vont avoir un comportement inadapté et en fait se mettre en difficulté et se mettre en situation de détresse alors qu'il suffisait peut-être juste de monter 2 marches.